Alors, je vous propose aujourd'hui d'aborder le livre des Actes, hein, comme on le fait depuis le début de l'année de 2021, donc sur une étude suivie, textuelle, du livre. Et on va juste faire un petit rappel, comme on l'a fait déjà au mois de janvier, pour juste voir que le livre des Actes, on peut le séparer en deux parties. Une première partie qui est plutôt la préparation à la mission, la naissance de l'Église de Jérusalem, et puis avec la place de Pierre qui est vraiment importante. Et puis dans un deuxième temps, on va voir plutôt les voyages de Paul, hein, les voyages missionnaires, avec les quelques voyages que vous connaissez. Donc le premier voyage qui est quand même relativement proche de Jérusalem, c'est une façon de parler, hein, on est sur la partie nord-est de la Méditerranée. Et puis après, on va avoir le deuxième voyage qui est beaucoup plus loin, qui va jusqu'en Grèce. Et puis le troisième qui se superpose à peu près au précédent. Et puis après, on aura le quatrième voyage avec le départ vers Rome qui va arriver après le passage que l'on va aborder aujourd'hui. En termes de temps, les Actes des Apôtres, c'est de l'ascension, de Jésus, oui, de l'ascension de Jésus. Donc on est à peu près en 30 après Jésus-Christ, jusqu'aux années 70 à peu près. Et là, en ce moment, on va aborder, dans les chapitres 25 et 26, on est dans les années 60 à peu près, et ce sera l'acte 25, où on va, d'une certaine manière, voir le témoignage de Paul et puis son accusation par les référents religieux. Donc... Aujourd'hui, pourquoi condamner un innocent ? C'est sous cet angle que je vous propose d'examiner les accusations contre Paul qui sont faites par les autorités juives et puis sa défense, comment il va, lui, aborder le sujet et comment il va se défendre. C'est particulièrement intéressant pour ceux qui veulent avoir des résumés. La vie de Paul sera exposée en quelques temps. Pourquoi accuser un innocent ? Si quelqu'un peut m'amener ma Bible, ce serait pratique, s'il vous plaît. Alors, la bibliographie, c'est la même que celle que, habituellement, ce sont des bons ouvrages. Merci beaucoup. Ce sont de bons ouvrages qui sont disponibles à la librairie biblique et puis à la bibliothèque de l'Église. C'est un beau cadeau de Noël, hein. Vous pouvez taper dedans, c'est intéressant. Si vous voulez, n'hésitez pas à mettre ça sur votre liste. Alors, historiquement, Rome a conquis Israël en 63 avant Jésus-Christ. Et là, on est dans un cadre où le peuple juif va pouvoir garder ses référents religieux et ses coutumes et ses habitudes. Donc c'est une manière qu'a Rome, qu'a la cité de Rome, d'aller s'imposer par ailleurs sans trop avoir de critiques sur place, puisque les gens, d'une certaine manière, gardent leur liberté. Mais ça va très loin, parce que même dans les coutumes juives, il y a la possibilité qui est donnée par Rome de pouvoir mettre à mort des gens qui sont venus dans le temple, par exemple, qui sont venus dans les zones qui leur sont interdites, pour les païens. Et donc, ça va quand même très loin. Mais l'Église chrétienne, au départ, est juste considérée par Rome comme... en gros, comme le judaïsme, c'est pareil, c'est une tendance particulière. Et là, on est au tout début, mais à partir du moment où on a une croissance vraiment exponentielle de l'Église, ça va poser un vrai problème. D'abord parce que les chefs religieux juifs, eux, n'acceptent pas cette indépendance du christianisme, avec une certaine hostilité, il faut l'avouer. Et les Romains, eux, vont devoir prendre parti avec, d'un côté, les Juifs, qui sont véritablement contre les chrétiens, et puis de l'autre côté, les chrétiens qui prennent de plus en plus de place. Et à un moment, il va falloir considérer ce mouvement soit illégal, soit propre, soit étant avec le judaïsme, et là, c'est sûr que ça va poser un problème. Alors, je vous propose d'apporter d'abord, en deux parties, la situation que Festus, qui est le gouverneur, va exposer au roi Agrippa. Et après, dans un deuxième temps, on va voir que Paul défend sa cause. Donc je vous propose de lire cette partie. On est dans Acte 25, 13. Et Festus est avec Paul devant le roi Agrippa. Quelque temps plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour rendre visite à Festus. Leur séjour dura plusieurs jours. Festus en profita pour exposer au roi le cas de Paul. « J'ai là un homme, dit-il, que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Lors de mon passage à Jérusalem, les chefs des prêtres et les responsables de la nation juive sont venus porter plainte contre lui et ils m'ont demandé de le condamner. Mais je leur ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de livrer un prévenu avant de l'avoir confronté avec ses accusateurs et de lui avoir donné l'occasion de se défendre de leur accusation. » Ils sont donc venus ici avec moi, je n'ai pas voulu remettre l'affaire à plus tard, et dès le lendemain, j'ai tenu audience et donné l'ordre d'amener cet homme. Je m'attendais à ce que les accusateurs le chargent de toutes sortes de crimes graves, et il n'en fut rien. Il ne s'agissait que de discussions au sujet de leurs propres religieux et d'un certain Jésus qui est mort et dont Paul dit qu'il est vivant. Je me suis trouvé dans l'incapacité de prendre une décision dans un débat de ce genre. J'ai donc demandé à Paul s'il consentait à monter à Jérusalem pour que son affaire y soit jugée. Mais il a préféré user de son droit d'appel et il a demandé que sa cause soit portée devant le tribunal de l'empereur. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'à ce que je puisse l'envoyer à César. Alors Agrippa dit à Festus, j'aimerais bien entendre cet homme. Tu pourras l'entendre dès demain, lui répondit Festus. Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice arrivèrent en grand apparat et firent leur entrée dans la salle d'audience, suivie des officiers supérieurs et des notables de la ville. Sur un ordre de Festus, Paul fut introduit. « Roi Agrippa, dit alors le gouverneur, et vous tous qui êtes ici présents, vous avez devant vous l'homme au sujet duquel toute la foule des Juifs est venue me trouver à Jérusalem, aussi bien qu'ici, pour crier qu'il n'avait plus le droit de vivre. Or, en ce qui me concerne, je n'ai rien trouvé dans ce cas qui puisse mériter une condamnation à mort. Cependant, puisqu'il en a appelé à l'empereur, j'ai décidé de lui envoyer. Seulement, je ne dispose d'aucun fait précis à écrire à l'empereur, et c'est pourquoi je le fais comparaître devant vous, et tout spécialement devant toi, roi Agrippa, afin d'avoir quelque chose à écrire après cet interrogatoire. Car il est absurde, me semble-t-il, d'envoyer ainsi un prisonnier à Rome sans avoir préciser les accusations dont il est l'objet. Alors Festus, c'est le Romain procurateur. En fait, c'est le gouverneur. On va dire le gouverneur de Judée. Il vient d'être nommé et il est tout jeune et il ne connaît pas les coutumes, les habitudes, la religion juive. Et donc, en proposant de faire juger Paul à Jérusalem, il va donner un avantage important aux Juifs qui sont hyper présent dans la cité, et ça va être au détriment de Paul, parce qu'il est bien évident que les Juifs veulent la mort de Paul. Alors Paul, lui, a fait une demande qui est tout à fait légitime pour quelqu'un qui est un citoyen romain, comme Paul et sa famille, c'est-à-dire de se faire juger, non pas par les tribunaux locaux, mais par César, donc directement à Rome. Donc Paul fait ce choix. Alors c'est un choix qui peut sembler surprenant, mais d'un autre côté, c'est sûr que s'il va à Jérusalem, il va avoir tout contre lui. Alors ça permet de reporter le procès, ça c'est une première chose. C'est sûr qu'il aura plus de chances, a priori, à Rome qu'à Jérusalem de sauver sa peau, sauf qu'il faut bien voir que le but de Paul, c'est aussi de porter la parole et que ce voyage à Rome va lui permettre de parler du christianisme, de parler de sa foi et justement d'aller là aux instances, dans la base de l'État romain pour pouvoir apporter la bonne nouvelle et puis aussi auprès des Juifs romains. Donc Festus dit, en ce qui me concerne, je n'ai rien trouvé dans son cas qui puisse mériter une condamnation à mort. Et c'est quand même très surprenant de voir comment Paul, qui n'a rien contre lui officiellement, se retrouve dans une situation de prisonnier, de quasiment condamné, alors que l'État romain n'a strictement rien à lui reprocher. Alors, il faut se dire aussi qu'à Rome, on est sous le règne de Néron. Alors, on est au début, Néron, on est dans les 4-5 ans, ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas le Néron catastrophe qui va faire le massacre des chrétiens après l'incendie de Rome. Alors, c'est sûr qu'il a, il a voulu détourner la fureur populaire contre les chrétiens après l'incendie de Rome, mais d'un autre côté, au début, il est plutôt bien conseillé. Alors, dans les gens qu'on connaît, il y a le philosophe Sénèque, mais il est bien conseillé et en fait, il ne semble pas contre les chrétiens. Et a priori, ce n'est pas aberrant d'aller à Rome, d'autant plus si on voit que pendant ce temps-là, il va pouvoir, du moins Paul va pouvoir partager sa foi. Donc, il y a une sorte d'impression de bienveillance de Rome qui ne présage pas des catastrophes qui vont se passer contre les chrétiens après. Et le recours de Paul à l'empereur semble cohérent. Alors, après l'intervention de Festus, Paul défend sa cause auprès du roi Agrippa. Alors, d'abord l'explication de Paul dans les versets 1 à 26. Et puis après, on verra la réponse. Alors, Paul défend sa cause. Agrippa dit à Paul, « Tu as la parole, tu peux présenter ta défense. » Alors, Paul étendit la main et présenta ainsi sa défense. « Roi Agrippa, je m'estime heureux de pouvoir aujourd'hui me défendre devant toi de toutes les accusations que les Juifs ont portées contre moi, car tu connais parfaitement toutes leurs coutumes et leurs discussions. Veuille donc, je te prie, m'écouter avec patience. » Effectivement, Agrippa connaissait parfaitement bien toutes les coutumes juives. Tous mes compatriotes savent comment j'ai vécu dès ma jeunesse au sein de mon peuple à Jérusalem. Ils me connaissent depuis longtemps et ils peuvent témoigner, s'ils le veulent bien, que j'ai conduit ma vie selon les principes du parti le plus strict de notre religion, celui des pharisiens. Et maintenant, si je suis traduit en justice, c'est à cause de mon espérance dans la promesse de Dieu à nos ancêtres. Nos 12 tribus espèrent voir son accomplissement en rendant leur culte à Dieu nuit et jour. Oui, c'est à cause de cette espérance que je suis mis en accusation par des Juifs, au roi. Et pourtant, trouvez-vous incroyable que Dieu puisse ressusciter des morts ? Pour moi donc, j'ai d'abord pensé que je devais m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison, en vertu des pouvoirs que j'avais reçus des chefs des prêtres, un grand nombre de ceux qui appartenaient à Dieu. Et lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. Je passais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayer de les contraindre à renier leur foi dans l'excès de ma fureur. J'allais les traquer jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi qu'un jour, je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs que m'avaient accordé les chefs des prêtres pour accomplir cette mission. J'étais en chemin et il était environ midi, lorsque j'ai vu, ô roi, une lumière venant du ciel plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat que mes compagnons de voyage voyaient aussi. Nous sommes tous tombés à terre et j'entendis une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Je demandais, « Mais qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais « Lève-toi, tiens-toi debout, car je suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vus et leur dire ce que je ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. » Ainsi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel, mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée et enfin aux païens. Je leur ai annoncé qu'ils devaient changer de vie et se convertir à Dieu pour vivre d'une manière qui réponde à ce changement intervenu en eux. Et c'est pour cette raison que les Juifs se sont emparés de moi dans la cour du temple et qu'ils ont essayé de me tuer. Mais j'ai été protégé par Dieu jusqu'à ce jour, et je suis donc encore là pour apporter mon témoignage aux gens d'humbles conditions comme aux personnes importantes. Et ce que je déclare, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement, c'est-à-dire que le Christ souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter des morts pour annoncer la lumière du salut, non seulement au peuple juif, mais aussi aux païens. Maintenant, on passe à la réponse et à l'avis du roi Agrippa. Paul en était là dans sa défense, quand Festus s'écria « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait perdre la tête !»« Non, Excellence, répondit Paul, je ne suis pas fou, tout ce que je dis est vrai et sensé. » D'ailleurs, le roi Agrippa est au courant de ces faits, et c'est pour cela que je peux lui en parler avec assurance. Aucun de ces événements ne lui échappe, j'en suis sûr, car ce n'est pas en secret qu'ils se sont produits. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? « Oui, je le sais, tu y crois. » Alors Agrippa dit à Paul, « Encore un peu et tu vas me persuader que tu as fait de moi un chrétien. » Il y a quelques autres traductions peut-être à parcourir si besoin. Qu'il s'en faille de peu ou de beaucoup, reprit Paul, je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent en cet instant, vous deveniez comme je suis moi-même, à l'exception de ces chaînes. Là-dessous, le roi se leva et le gouverneur, Bérénice, ainsi que tous ceux qui avaient siégé avec eux, l'imitèrent. En se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Il aurait pu être relâché s'il n'avait pas fait appel à l'empereur. » Agrippa connaît très bien le judaïsme et il semble assez proche de Paul. Et d'ailleurs, il dit « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Mais s'il valide ce que dit Paul, il se met en opposition aux Juifs. Et moi, ce qui me surprend, c'est que bien qu'il semble innocent, bien que Paul semble innocent pour le pouvoir, eh bien, ils ne vont pas faire grand-chose pour le sortir de là. Il a demandé d'être jugé à Rome, bah, il sera jugé à Rome, alors que il n'y avait rien pour le condamner. Donc ils suivent la procédure. Voilà. Mais est-ce une obligation légale? Est-ce que c'est juste un échappatoire? Je n'ai pas lu grand-chose qui me satisfasse sur le sujet. En tout cas, il faut réaliser que ce qui est important, c'est que ça va permettre à Paul d'aller évangéliser à Rome et de pouvoir contacter les Juifs sur place et leur parler de cette bonne nouvelle. Donc sous cet angle, c'est un point qui est tout à fait positif et on peut imaginer que justement c'est ce que veut faire Paul. Alors pour conclure, pourquoi condamner un innocent? Les derniers versets du livre des Actes précisent qu'en arrivant à Rome, Paul a une très grande liberté et il va pouvoir rencontrer les différents responsables juifs et il va pouvoir leur apporter cette bonne nouvelle. Et dans ce cadre-là, c'est passionnant parce qu'on se rend compte que, comme à Jérusalem, comme ailleurs, il y en a qui vont accepter et qui vont devenir chrétiens, et puis d'autres qui vont rester tout à fait réfractaires et ne pas se laisser persuader par Paul. Et à ce moment, Paul va reprendre une prédiction d'Ésaïe. Alors, Ésaïe, pour replacer ça dans le contexte, c'est 700 ans avant Jésus-Christ. Hein, donc là, on est en 60 après. Hein, donc il y a quand même un paquet de temps. Et Ésaïe dit « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir, vous ne saisirez pas. » Et tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu intervient. Il intervient avec les prophètes et les prophètes vont s'exprimer en son nom. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, l'humanité refuse les injonctions, les conseils, les demandes de Dieu. Certains, comme Paul, sont condamnés, expatriés, jugés, tués. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'à la fin, la bonne nouvelle va se répandre et va se répandre malgré tous les détracteurs. Mais Jésus lui-même a été confronté à l'injustice, à l'incrédulité, au mépris et à la condamnation. Et aujourd'hui encore, quand nous parlons de ce Jésus mort sur la croix pour nous et ressuscité comme il avait été annoncé par les prophètes, on est souvent critiqué, moqué, bon, ça arrive, parfois insulté. Dans de nombreux pays, il y a encore clairement des interdictions de proclamer sa foi et on peut être ravi d'être en France où on peut se permettre de parler de notre foi sans aucun problème. Mais c'est aussi un piège, parce que dans toutes ces informations, du moins face à cette bonne nouvelle que l'on voudrait transmettre, on a une quantité d'informations générales qui noient complètement le message. Et notre culture ambiante recouvre toute volonté de référence à Dieu. Alors Paul a été condamné alors qu'il n'était pas coupable, et la population de l'époque s'opposait à la proclamation de l'Évangile, de ce Jésus venu non pas pour juger, mais pour sauver le monde. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ma voix et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et dans un monde qui cultive l'individualisme, et la place de l'ego au centre de toute décision, il est difficile de concevoir une acceptation d'un Dieu tout-puissant, créateur, venu sur terre en Jésus-Christ pour permettre à chacun de se reconnecter à Dieu. Alors comment accepter avec humilité cette dépendance à Dieu ? Comment vivre cette foi et la proposer autour de nous ? Paul a accepté, a choisi d'être condamné, bien qu'étant innocent, et de pouvoir témoigner à des milliers de kilomètres de Jérusalem. Alors, essayons déjà de vivre et de montrer notre foi autour de nous. Notre rôle est de témoigner et de montrer comment Dieu a réussi à nous transformer malgré les difficultés et les épreuves. On peut sortir des exemples fantastiques dans l'histoire de l'humanité pour montrer combien Dieu a agi sur chacun. Par contre, si vous-même vous prenez soin de ne parler que de ce que vous voulez, de ce que vous avez vécu, vous avez un témoignage qui est irréfutable. Quitte à être accepté, malgré notre innocence. Mais pourquoi condamner un innocent ? Prions. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as fait parvenir ta parole, tu nous as fait connaître par tes prophètes tout ce que tu attendais de nous, et maintenant, connaissant Jésus qui est venu nous sauver, nous savons combien tu es important et combien nous pouvons nous confier à toi. Je te demande de bénir notre assemblée, de bénir tous ceux qui nous écoutent, de les accompagner et de les guider. Je te demande aussi de nous permettre, nous aussi, de témoigner comme tu nous le demandes. Amen.